Ligue américaine aujourd'hui.
Football? Le football de la NFL avec William Boivin.
FM 93, ça me parle.
Ah, oh, cette fameuse toune qui rend mon chum Will toujours heureux chaque fois qu'il l'entend. Est-ce que tu vas être capable, Will, de te rendre à dimanche prochain pour les finales de conférence ou une fois ou deux cette semaine, il va falloir un peu te remonter le moral?
Ouais, il va falloir, j'ai l'impression. Je vais avoir besoin de ton support, mon Dan, parce qu'on a déjà hâte à dimanche et les finales de conférence.
OK, quand tu sors d'un week-end comme celui d'en fin de semaine, deux matchs samedi, deux matchs dimanche, évidemment, la bombe, c'est la défaite des Ravens, on en convient tous. Est-ce que tu as l'impression que le week-end qu'on vient de vivre a été semblable, un peu meilleur ou un peu moins bon que le précédent?
Bonne question. Je te dirais meilleur.
OK.
Ouais, même si le premier week-end avait mis la barre haute, on s'entend, avec deux matchs en prolongation, quatre bons matchs serrés. Mais là, c'était l'entrée en scène des Top Guns de la Ligue. Hein, les quatre équipes qui avaient obtenu un laissez-passer en première ronde, et les Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Aaron Rodgers et compagnie. Et des, tu l'as dit tantôt, Dan, des fameux « ben voyons donc ».
Ouais, il y en avait.
Il y en a eu une coupe en fin de semaine. Surtout samedi soir, je te dirais que j'ai dû en dire à peu près 122.
Samedi soir, c'était le match des Ravens.
Les Ravens contre les Titans. Donc, ça a été rempli de surprises. C'est la beauté du sport et du football. Il n'y a pas de série de 4 de 7. C'est pas des séries de 3 de 5. Les Ravens, probablement, qui battent les Titans dans une série 4 de 7. Mais un seul match, les Titans ont sorti en Lyon contre les Ravens. C'est ceux qui ont gagné. Donc, le dernier week-end a été extraordinaire, Dan.
Oui, est-ce qu'il faut que je fasse une règle de 3 en me disant que vu que les Titans ont battu les Ravens, faut que je revienne une semaine en arrière pour me dire que finalement, c'était pas un feu de paille d'avoir battu les Pats?
Ouais, en quelque sorte. C'est un parcours. Écoute, équipe Cendrillon, je pense, c'est trop faible pour qualifier le parcours des Titans actuellement. L'autre trophée de chasse, ils ont Tom Brady et les Pats, Lamar Jackson, le MVP de cette saison 2019, nommé dans les prochaines semaines, et les Ravens de Baltimore, équipe avec une fiche de 14 victoires, 2 défaites, 12 victoires consécutives pour terminer les séries. Et effectivement, Dan, les Titans ont battu les Pats et ont démontré à tout le monde qu'on aurait dû les prendre au sérieux contre les Ravens. Je pense qu'on l'a pas assez fait, et c'est une des plus grandes surprises de ces dernières années dans la NFL.
OK. Lamar Jackson, le joueur par excellence cette année dans la NFL, la nouvelle coqueluche, il a quasiment pris la place de Pat Mahomes, qui l'année dernière avait été la coqueluche.
Exact.
365 verges par la voie des airs, mais 2 interceptions. 143 verges au sol.
Ouais, pour moi, ça vaut rien, ça.
OK, non, mais c'était ça ma prochaine question. Est-ce que, en regardant les stats, j'ai regardé le match aussi, là, mais juste en termes statistiques, je me dis, Colin, c'est-tu lui qui a bien joué puis ses chums l'ont abandonné? Toi, tu dis non.
Un mélange des deux.
OK.
Parce que c'est bien beau avoir des statistiques comme tu as nommé, et si on regarde les faits saillants d'après rencontre, on se dit, ben voyons donc. Les Ravens ont seulement 12 points au tableau. Ils ont tout de même perdu le match. Et Lamar Jackson ne peut pas avoir choqué, entre guillemets, avec de telles statistiques. Mais le football, c'est plus que ça.
OK.
Les trois revirements qu'a commis Lamar Jackson ont extrêmement fait mal aux Ravens, et les Titans en ont profité pour marquer des points à chacun des revirements par la suite. Alors, c'est bien beau les stats, et souvent, c'est, on dit en langage football, « dans garbage time », en temps poubelle en quelque sorte, en fin de match où ça vaut plus rien.
Oui.
Donc, de ramasser des stats, de lancer des ballons, récolter des verges au sol, c'est une chose. Mais quand ton équipe perd déjà par 20 points, le mal est déjà fait.
Okay.
Alors, les Titans, Dan, sont arrivés et ont joué un match parfait pour battre les Ravens. Ils ont battu les Ravens à leur propre jeu cette année, c'est-à-dire de gagner la bataille de la robustesse et établir un meilleur jeu au sol que Baltimore. Cette année, les Ravens ont dominé et ont pilé d'en face en tout le monde parce qu'ils brassaient tout le monde avec nos gros joueurs de ligne offensive. On gagnait la bataille de la robustesse des deux lignes, la guerre des tranchées, et surtout, on était capable de courir avec nos porteurs de ballon et notre carrière. Or, ça n'a pas fonctionné samedi contre les Titans, parce qu'ils avaient mis en place un système de jeu défensif infaillible. Bravo à Mike Vrabel. Puis, je pense qu'il y a bien des entraîneurs défensifs de la NFL qui peuvent remercier Vrabel, parce que là, il a mis sur une séquence de jeu de quatre quarts, un match complet.
Ouais.
Comment arrêter Lamar Jackson? Faut calquer ce que les Titans ont fait samedi soir.
OK. Le jeu du match, pour moi, est survenu sur un 3e et 1, au moment où le porteur de ballon des Titans, M. Henry, est parti sur la droite puis il a couru pour à peu près 55 verges. Ouais. S'en est suivi un toucher où lui-même a lancé une passe de toucher.
Exact.
Ce qui n'était pas arrivé, je pense, depuis 30 ans dans un match de série de la NFL. Pour moi, ça s'est joué là. Un troisième et un, évidemment, je ne suis pas spécialiste de football. Loin de là, j'ai jamais joué d'ailleurs. Mais les troisièmes et un qui font 55 verges, ou je sais pas, j'ai dit 55, c'est peut-être 50, c'est peut-être 65.
Peu importe.
Il a couru longtemps. Oui. Okay? Ça m'impressionne tout le temps. Et est-ce que, sur un jeu comme ça, Will, il faut donner le crédit à l'attaque des Titans ou vraiment pointer la défensive des Ravens?
Un peu des deux aussi. Parce que souvent, en situation de troisième et un, on va y aller avec plusieurs blitz. On va mettre beaucoup de monde dans la boîte défensive pour y aller le tout pour le tout.
Okay.
Pas les stopper après une course de quatre verges. Ou
ouais.
Sinon, le premier jeu est déjà atteint.
Les
stopper dans le champ arrière.
Okay.
Donc souvent, si on est capable de sortir de la ligne de mêlée, où on amène beaucoup de monde en défensive, les joueurs de ligne offensive essaient de se batailler là-dedans, puis trouver une brèche pour leur porteur de ballon. Et surtout, c'est Derrick Henry, 6 pieds 3, 250 livres.
Ah, oui.
C'est bonne chance pour les joueurs défensifs de l'arrêter.
Ah,
on se met à 3-4 pour le rabattre au sol. Et les Titans, puis on en parle peu encore une fois, puis gars, je t'ai mentionné à plusieurs reprises le travail des lignes. Ligne offensive, ligne défensive. La plupart du temps, Dan, et surtout en éliminatoire, les matchs se gagnent là, la guerre des tranchées. Et les Titans ont deux excellentes lignes, autant offensives que défensives.
Okay.
Et Derrick Henry est un monstre. Encore une fois, on a gagné un match. Notre carrière a récolté 88 verges par la passe.
Pas de bon sens.
Mais au sol, on a couru pour 250 verges, 190 pour Henry, et on gagne encore une fois. Là, il faut prendre les Titans au sérieux.
OK. Ça, on va en reparler, évidemment. Ouais. J'avais deux, trois questions pour toi concernant cet affrontement entre les Titans et les Chiefs, mais volontairement, je te les pose pas ce soir parce que je sais qu'on va y revenir plus tard cette semaine. Les Texans menaient 24-0, ça a fini 51-31. J'étais pas pire en maths au secondaire. Je déduis donc que le reste du match, ça a été 51-7. À la faveur des Chiefs.
Exact.
Plusieurs ont pointé l'entraîneur-chef. Moi, je m'y connais pas assez. Je sais qu'il y a aussi un jeu truqué et ça n'a pas marché, mais moi, je m'y connais pas assez pour pointer l'entraîneur-chef des Texans. Est-ce que c'est lui qui a perdu le match hier?
Ben, il faut y donner sa part de blâme. Okay. On n'a pas le choix.
Okay.
Quand tu as une avance de 24-0, là, je comprends que c'est les Chiefs, Patrick Mahomes et tout ça. Mais sérieux, tu ne peux pas faire une comédie d'erreur pour permettre à ton adversaire de revenir dans le match.
Okay.
Le jeu truqué, entre autres, Dan, était tellement mal choisi. Là. Sérieusement, je me demande à quel point on est venu à prendre cette décision-là. Je sais pas si c'est l'entraîneur-chef lui-même, le coordonnateur des unités spéciales, soit le gars en offensive ou en défensive, mais on peut pas appeler un tel jeu alors que les Chiefs viennent de reprendre le momentum. Là, ton offensive a rien fait. Trois jeux et on botte. T'es à ta propre ligne de 30. Et tu y vas avec un jeu truqué. Finalement, ben, on a été stoppé, puis ça a permis aux Chiefs de marquer un autre toucher. Mais sérieusement, bravo aux Chiefs, belle force de caractère. On est revenu dans le match. Patrick Mahomes a pris les choses en main puis a dit « Suivez-moi, on s'en va dans cette direction-là, c'est-à-dire la victoire. » Mais les Texans ont leur part de blâme.
La porte s'est ouverte tranquillement.
Ouais.
Ok.
Sept séquences à l'attaque consécutive avec un toucher. C'est extraordinaire.
Ouais, ouais.
Extraordinaire. Puis oui, on peut blâmer un peu la défensive des Texans, mais Mahomes, contre n'importe quelle défensive hier, je pense qu'il aurait pilé d'en face.
Ok, le temps file. Je veux te parler de Danny Machocha puis du football universitaire américain. Les Niners et les Packers. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur l'un de ces deux matchs-là?
Ben écoute, Packers-Seahawks, c'était extraordinaire.
Oui, c'était bon.
C'était
hein?
Quasiment un duel, Dan, entre, je vais dire, McDavid Matthews,
okay.
Crosby Ovechkin,
okay.
Russell Wilson et Aaron Rodgers.
Oui.
Quel beau duel de carrière. Les deux gars ont pris les choses en main. Rodgers en a fait suffisamment en première demi pour permettre à son club de l'emporter. Puis Russell Wilson, il était son propre porteur de ballon, le corps arrière,
oui.
Et quasiment les receveurs également.
T'as
des
raison.
Seahawks.
Ouais.
Il est extraordinaire, ce gars-là, mais il est un peu trop mal entouré pour permettre à son club de l'emporter.
Okay.
Tout de même, il n'y a rien de surprenant dans ces deux victoires-là.
Mais les Packers, beaucoup de troisième jeu bénéfique pour eux.
Ah oui.
Ça fait la différence.
Surtout sur la dernière séquence.
Exact.
Le maître Rodgers et les Niners, Dan, ont été sensationnels défensivement pour contenir, museler complètement les Vikings. Je te l'ai dit vendredi dernier, les Niners, pour moi, c'est l'équipe la plus complète de la NFL. Ils l'ont prouvé samedi.
Parfait. Danny Machocha qui devient DG des Alouettes. Tu es surpris ou pas du tout?
Oui, surpris en quelque sorte, parce que bon, son nom revenait dans les rumeurs à chaque année. Là. C'est pas, je veux dire...
Comme entraîneur, plus?
Ben oui, comme directeur général aussi.
Il l'avait déjà été.
Mais je pense, oui, effectivement, il l'a déjà été avec les Eskimos d'Edmonton. Mais je pense, dans la situation où il est présentement, à 52 ans, où il a donné pas mal au football, j'ai l'impression qu'il veut rester proche de sa famille. Okay. Et en directeur général, tu fais pas moins d'heures qu'entraîneur-chef, mais tu peux faire ces heures-là à Montréal au lieu de te promener un peu partout au Canada.
Okay.
Alors, dans la situation actuelle, ça me surprend quelque peu parce que lui, il voulait pas travailler pour les Wet and All. Les anciens propriétaires des Alouettes, c'était clair, net et précis. Okay. Et c'est pour ça que ça a été long avant que Machocha revienne avec les Alouettes. Mais bref, là, avec la nouvelle structure, je pense que c'est une bonne chose et surtout, c'est une bonne acquisition des Alouettes. Acquisition parce que j'ai l'impression qu'il va revamper un peu l'organisation de A à Z. On peut écouter Danny Machocha aujourd'hui à la conférence de presse des Alouettes.
J'ai quitté en 2002. Je savais et je croyais fortement que c'était une question de peut-être 2, 3, 4 ans avant que je retournais. Mais ça fait 18 ans. Puis aujourd'hui, je suis très ému parce que je suis en train de vivre mon rêve une deuxième fois, de faire partie d'une grande organisation. Pour moi, ce défi-là, j'ai hâte. Ça arrive au bon moment dans ma vie, à 52 ans, que d'aller chercher un championnat, un Coupe Grey à Montréal.
Moi, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, Will, mais j'ai l'impression que Danny Machocha va faire exactement ce qu'il a fait avec les Carabins, c'est-à-dire ajouter de la crédibilité à une organisation qui se cherchait.
Ben oui, puis il en a besoin de crédibilité actuellement. Surtout de la notoriété aussi.
Oui.
Là, les Alouettes étaient passées complètement inaperçues dans les décisions sportives des gens. C'est-à-dire, on va voir quoi en fin de semaine comme événement sportif. Et aussi dans les médias puis dans les publicités et tout ça. On avait besoin d'un gars comme Mario Cecchini qu'on a nommé président et Danny Machocha pour amener. Tout le monde connaît Danny Machocha. Tout le monde connaît son parcours. Il amène de la crédibilité. Très bonne décision des Alouettes.
Imagine si Justin Étier accepte le poste d'entraîneur-chef des Carabins. Hey! On l'aurait-tu de la rivalité entre les Carabins et le Rouge et Or?
C'est
un gars de Montréal, Justin.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est une dure perte quand même pour les Carabins.
Oui,
parce qu'il y avait établi quelque chose dans cette structure, organisation-là.
Exact.
C'était devenu une superbe rivalité avec le Rouge et Or. Puis les Carabins vont être encore solides. Mais j'ai l'impression que l'effet de la perte de Machocha pourrait peut-être se faire ressentir dans 2, 3, 4 ans.
OK, ce soir, 20h sur TSN, Clemson contre LSU. C'est du bonbon. Mais explique aux auditeurs un peu moins familiers avec la NCAA, qu'est-ce qu'on devrait regarder particulièrement dans ce match?
Ben écoute, c'est la bataille des Tigres, hein, tu l'as bien dit tantôt, Dan, les Tigers de LSU contre les Tigers de Clemson, c'est pas compliqué, c'est les deux meilleures formations au pays. Parmi 300 quelques universités qui ont des programmes de football, c'est les deux meilleures. Fait qu'il y a pas eu de surprise cette année, numéro 1 contre numéro 2. Et surtout, Dan, on va surveiller les deux carrières. Joe Burrow pour LSU, Trevor Lawrence pour Clemson. Retenez ces deux noms-là, parce qu'ils seront respectivement les deux prochains premiers choix au repêchage de la NFL. Burrow cette année et Lawrence l'année prochaine.
Okay.
Deux futures vedettes de la NFL. Et c'est les deux meilleures attaques. Sérieux, Dan, il va avoir au-dessus de 80 points marqués au cumulatif de ce match-là. J'ai eu la chance de voir jouer les Tigers et LSU cette année lors de mon voyage en Nouvelle-Orléans pour voir jouer les Saints. Et c'est une machine de football incroyable. On est bon partout. C'est la meilleure saison du programme de LSU. Puis j'espère pour eux qu'ils vont terminer ça avec le championnat ce soir. Le match et en plus de ça, disputé en Nouvelle-Orléans.
Ben oui,
donc,
ça, c'est rare.
Chez eux, en Louisiane.
Quand j'ai dit c'est rare, c'est pas que c'est rare que ce soit disputé au Superdome. Oui, parce qu'on le promène, ce match de championnat-là. Ce que je voulais dire, c'est que c'est rare qu'une équipe joue aussi près de son campus.
Absolument. Super Bowl, championnat de la NCAA, c'est rare qu'une équipe va jouer près de chez eux ou ben carrément dans leur domicile. Dans la NFL, c'est jamais arrivé que la ville hôtesse, ce soit leur équipe qui participe au Super Bowl. Alors cette année, c'est extraordinaire, Dan. Il va y avoir beaucoup d'ambiance dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans.
LSU est favori, mais est-ce que Clemson peut gagner?
Je pense que oui, moi. Okay. Je pense qu'on va avoir une surprise de ce côté-là.
Parfait.
Ils sont 25-0 depuis 2 ans, les Tigers de Clemson.
Eh!
Puis je suis pas sûr que c'est ce soir qu'ils vont perdre leur premier match.